Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
La vache égérie du Salon de l'Agriculture 2024 est oreillette. Comme chaque année, le Salon de l'Agriculture met à l'honneur la vache d'un territoire de l'Hexagone. La Plémette Oreillette vit au GAEC Foucault, situé à Briouze, dans l'Orne. Elle sera donc la vedette du salon. Elle apparaît même sur l'affiche officielle. A Star is Born. Avec sa robe aux trois couleurs et ses lunettes bien dessinées, son regard comme maquillé de kohl, Oreillette ne passe pas inaperçue. Elle est une belle ambassadrice de la race normande. L'année dernière, c'était une vache de race salaire. Chacun son tour. Et donc, c'est Oreillette qui va profiter de ce salon pour représenter toutes les copines de la race normande. Miss Oreillette est en fait Mrs. Elle est âgée de 5 ans et est également maman de 3 petits veaux. C'est dans une exploitation fermière de 150 hectares, dont 80 en herbe, qu'Oreillette pâture parmi un troupeau 100% normand de 110 vaches laitières et 24 bœufs. Oreillette n'est pas peu fière d'être la productrice du lait destiné à être transformé en camembert et en Pont-l'Évêque AOP. Le salon a tenu à souligner le tempérament calme et la capacité d'adaptation de cette splendide vache qui, en moyenne, permet l'élaboration de 10 camemberts par jour de vie. Bravo Oreillette! Et si le cœur vous en dit, vous pourrez la retrouver du 24 février au 3 mars prochain au Salon de l'Agriculture de Paris, porte de Versailles. Dépêchez-vous au cas où la billetterie exploserait et que les tickets d'entrée s'arracheraient pour la vache mascotte du salon, Oreillette.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Michel Diebolt est électroculteur. L'électromagnétisme joue un rôle vital chez toutes les espèces vivantes. L'utilisation des sources naturelles d'énergie ont prouvé que la sensibilité des cellules végétales au courant électrique peut être exploitée pour améliorer leur croissance. Des anciennes recettes mises au goût du jour, le conférencier Michel Diebolt, spécialiste, vous invite le 17 novembre, salle Champin, à Chazé-d'Azergue à 20h30, à mieux comprendre l'électroculture et à la pratiquer.
Il y a plusieurs néologismes, il y a électro-cultivateur, électro-culteur, chacun fait comme il veut.
Très bien. Que cache effectivement ce mot composite ?
Eh bien en fait, c'est parce que c'est une technique d'agriculture, de culture, où on va utiliser les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques, les ondes électromagnétiques, d'où électro-culture.
Est-ce que l'on dit que c'est du jardinage alternatif ?
On peut dire comme ça, oui, mais c'est alternatif est un mot plutôt moderne et l'électro-culture est une technique plutôt très ancienne de 1800-1850, voire avant. Donc simplement, ça revient au goût du jour maintenant, quoi.
Et pourtant, pendant très longtemps, cette pratique a été menée un petit peu en catimini, en quelque sorte, avec certains amateurs.
Ah oui et non. C'est-à-dire que le plein essor de l'électroculture, c'est la fin des années 1800 et le début des années 1900, et où plusieurs savants, plusieurs personnes ont mis en évidence les effets bénéfiques de l'électromagnétisme sur le vivant, et en particulier sur les plantes, avec des résultats absolument extraordinaires qui ont été saisis, commentés et référencés. Et ça s'était qualifié comme étant l'avenir de l'agriculture, puisqu'en fait, on n'utilisait plus ni les engrais, ni tous les intrants qu'on pouvait apporter dans un jardin.
Est-ce qu'ils sont pratiqués ?
La difficulté de cette pratique, si je peux appeler ça comme ça, c'est qu'en fait, on fait beaucoup d'ombre à l'agrochimie. Et donc, l'agrochimie lutte fortement ou a lutté fortement pour éteindre l'électroculture à un point tel que le mot électroculture qui faisait partie du langage courant avec, il y avait des conférences mondiales, la première conférence a été faite en France, enfin c'était quelque chose d'acquis et de reconnu, mais aujourd'hui le mot électroculture il n'est même plus dans le dictionnaire, il est dans aucune encyclopédie, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment écrasé, éteint ça parce que il y avait un manque à gagner, certain.
Vous en avez fait un petit peu référence là depuis le début de notre conversation, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son principe d'utilisation ?
En fait, donc on va utiliser les ondes électromagnétiques
naturelles,
qui sont présentes naturellement dans l'air, Et dans le sol, simplement, on va pouvoir les capter et les amplifier. Et donc, ça va permettre d'obtenir des résultats intéressants pour les plantes.
Alors, les flux électriques et magnétiques, ils sont un petit peu partout, ils nous entourent finalement. Mmh. Comment on arrive justement à les repérer ?
Oh, ben, ils sont présents. C'est un peu comme des ondes radio. Les ondes radio sont présentes dans l'air. Et il faut simplement avoir le bon capteur, la bonne fréquence pour aller chercher l'onde qui nous intéresse. Et donc là, c'est un peu le même principe, pas tout à fait quand même. Mais on va donc utiliser des dispositifs pour favoriser les échanges d'ions entre le ciel et la Terre. Je vais résumer ça comme ça.
Quoi. Alors, on s'outille de quoi ? De fils de fer ?
Oui,
de,
voilà, ça reste des choses extrêmement simples. Dans les faits, sur la pratique, c'est aussi très très facile à faire. Après, la compréhension, c'est un autre aspect. Mais donc, on va utiliser les énergies telluriques, les énergies magnétiques telluriques terrestres, qui sont présentes, en utilisant des précautions, puisque les ondes électromagnétiques terrestres, elles sont axées sud-nord, et donc nous, on va s'ingénier à mettre tous nos dispositifs et toutes nos cultures sur un axe sud-nord. Quand faire se peut, parce que quelquefois, on ne peut pas. Et puis sinon, on va aller chercher, capter des échanges d'ions, faire un échange d'ions entre le sol, c'est ça, les énergies célestes et les énergies terrestres.
C'est-à-dire le soleil, la lune ?
Ce qui est dans l'air.
Ce qui est dans l'air, très bien. Donc en quelque sorte, ce sont des aimants que l'on oriente et qui vont faire développer la croissance du vivant, en quelque sorte.
C'est une technique. Les aimants sont une technique, mais ça peut être extrêmement simple. Vous plantez une barre métallique, un fer à béton, vous le plantez dans le sol, ça fait antenne et vous allez obtenir déjà des résultats.
Expliquez-nous justement le potager, si on vous suit dans votre pratique de culture.
Ces énergies-là, donc, on peut les utiliser de multiples manières et on peut combiner plusieurs techniques, plusieurs buts. Donc ça peut commencer par la dynamisation des graines pour obtenir une meilleure germination, pour obtenir un meilleur résultat de croissance.
Que l'on peut replanter après, qu'on peut réutiliser.
Peut replanter après. Quand on fabrique ces plants, si on les soumet à ces énergies, ils vont se développer beaucoup plus vite, beaucoup plus densément et avec des meilleurs nutriments. Et donc on va gagner en vitalité et en vitesse de croissance. Et quand on l'applique à la plate-bande elle-même, bon, ben là, on obtient in fine, quel que soit ce qu'on utilise, des résultats de au minimum 30% jusqu'à 200% de production en plus. Aujourd'hui, l'électroculture est une technique qui est revenue au goût du jour parce que ce sont des énergies libres, gratuites et renouvelables. Donc ça fait partie des concepts qu'on entend en ce moment et beaucoup de gens découvrent ça et avec les inconvénients d'un phénomène nouveau, c'est que beaucoup de gens en parlent et pas beaucoup connaissent vraiment de quoi ils parlent. Quoi.
Michel Diebolt, électroculteur à Châtillon-d'Azergues, animera une conférence « Comment pratiquer l'électroculture » le 17 novembre, salle Champin, à Chazé-d'Azergues, à 20h30. Une conférence organisée par Alterninfo. L'entrée est libre. Chaque année, le troisième jeudi du mois de novembre, le très attendu Beaujolais nouveau coule à flot. Un événement célébré dans de nombreux pays. Amateurs des vins primeurs du vignoble Beaujolais, trinquons au Beaujolais nouveau et donnons la parole à ceux qui le font et ceux qui le vendent. Âgé de 27 ans, Gaëtan Mélinon reprend l'exploitation familiale aux côtés de sa maman. Situé sur les hauts de la commune de Villers-Morgon, le domaine Gaëtan Mélinon s'étend sur 18 hectares au cru Morgon.
Aussi, bah, bien sûr, c'est ce qu'on dit à l'Inter-Beaujolais, c'est Beaujolais nouvelle génération. Donc bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements sur les façons de vinifier les vins, sur les façons de travailler la vigne. Comme on disait, parti en conversion bio, on palisse les vignes plus hautes pour conserver le feuillage, pour limiter les coups de soleil sur les raisins, tout ça. Il y a plein de choses qui viennent, même sur les vins, sur les... On peut toujours faire mieux.
On a des savoir-faire différents, c'est ça ce que vous voulez dire, en fonction domaine et d'autre ?
Bah bien sûr, d'un domaine à l'autre, on a tous un peu notre typicité, et puis c'est ce qui fait aussi la spécialité de nos vins. Quoi. Si on avait tous le même Morgon, tous le même Chiroub, ce ne serait pas intéressant. Quoi. On peut boire 50 Morgons différents, donc c'est sympa. Oui, je fais des Beaujolais nouveaux, voilà, c'est ça, troisième jeudi de novembre.
Issu d'une grande famille de négociants, il est aujourd'hui dirigeant de la maison Jean Lauron, qu'il préside depuis 9 ans. Avec plus de 200 hectares de vignes, cette maison de négoce est devenue l'un des premiers opérateurs et producteurs en vin du Beaujolais. Philippe Bardet, négociant et président de l'Inter-Beaujolais.
Ce sont des vins qui seront joyeux comme un Beaujolais aime l'être. Donc ce côté coloré qui fait tellement plaisir parce que c'est le vin neuf, le vin nouveau, quand un jus de raisin. Un peu d'alcool dedans, attention, à boire avec modération. Donc des vins dans le fruit, des vins de fête, des vins partagés, presque des grands vins quand même cette année, puisque je pense qu'on va avoir des belles dégustations de plus valeur.
En 2022, 16,5 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau ont été écoulées, soit environ 25% de la commercialisation totale du vignoble. Beaujolais, Beaujolais Village de Garde et Dix Crus complètent la production. Environ 40% des Beaujolais nouveaux produits des rouges et des rosés à cépage Gamay sont exportés, selon les chiffres 2022 d'Inter-Beaujolais. Le Japon demeure de loin le principal client, avec 2,3 millions de bouteilles devant les États-Unis, 1,2 million de bouteilles, et le Royaume-Uni, 700 000 bouteilles.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade. Ma radio.